c'est pas du vent.
Saamelaisille on tärkeintä.
C'est pas du vent.
Luonto.
Le magazine de l'environnement.
Saamelaisille on tärkeintä. Perhe.
Sur RFI.
Saamelaisille on tärkeintä. Porro.
Parti depuis mai 2016, Lago Elettara est à mi-parcours de son expédition à travers le Pacifique pour étudier l'état des récifs coralliens. 15 pays traversés, 2000 plongées, 15 000 échantillons prélevés. L'occasion de faire un point d'étape avec nos invités. Romain Troublet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la Fondation Tara Expédition. Denis Allemand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre scientifique de Monaco. Vous êtes en ligne de Monaco d'ailleurs et co-directeur scientifique de cette expédition. Éric Deauville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ça va, je vous ai bien présenté.
Oui, tout à fait. Rajoute... sur le plateau de Saclay, au sud de Paris.
Voilà. Alors Romain Troublet, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les objectifs de l'expédition Tara Pacifique, qui est quand même la 11e expédition de la goélette Tara?
Effectivement, c'est la 11e expédition. C'est 2 ans d'expédition non-stop sur les récifs coralliens du Pacifique, entre le Panama et l'Asie du Sud-Est, et puis entre la Nouvelle-Zélande et le Japon, pour essayer d'aller à la rencontre de ces récifs, de comprendre comment ils se comportent face au changement global, pas que le climat, aussi la pollution, etc. Et de comparer en fait tous ces écosystèmes qu'on va croiser autour de ces, au fil de ces 2 ans, et pour comprendre comment demain, peut-être, ils vont s'adapter, comment aussi essayer de comprendre comment ils fonctionnent vraiment et comment demain on peut les aider à s'adapter aussi.
Alors Denis Allemand, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance des récifs coralliens dans l'écosystème marin en général et aussi pour nous les humains ?
Tout à fait, hein, les récifs sont non seulement importants pour la biodiversité mondiale, mais aussi pour nous. Alors juste quelques chiffres pour replacer les récifs coralliens dans le monde. En surface, ça représente une toute petite surface des océans. Ça représente moins de 0,2% de la surface totale des océans, 600 000 km². Ce n'est pas grand-chose, mais dans cette petite surface, vous avez 30% de tout ce que l'on connaît aujourd'hui comme organismes marins, poissons y compris. Donc c'est petite surface, mais une très grande importance dans la biodiversité mondiale, la biodiversité des océans. La biodiversité des récifs coralliens est supérieure, en fait, à la biodiversité des grandes forêts tropicales, des forêts primaires. Donc ça, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose que vous soulignez, vous avez raison, cette importance biologique fait aussi que c'est un milieu très important pour l'homme. Important pour l'homme à différents niveaux. Important pour l'homme d'abord parce que les récifs fournissent les poissons, fournissent la nourriture à beaucoup de sociétés, y compris dans le Pacifique, qui est une zone très importante pour les récifs coralliens.
C'est à peu près 30%, je crois, de la biodiversité marine qui dépend des récifs coralliens.
Tout à fait, 30% de cette biodiversité marine qui vit dans cette toute petite surface. Et une très grande partie de cette biodiversité corallienne se trouve surtout dans l'océan Pacifique, dans ce qu'on appelle le triangle du corail, qui est une zone qui est dans la zone Indo-Pacifique. Et c'est pour ça que Tara s'est intéressé particulièrement à cette zone-là. Donc c'est très important pour l'homme, pour la pêche, parce que les récifs fournissent une grande partie de la nourriture de beaucoup de civilisations côtières, mais également parce que ces récifs fournissent des revenus issus du tourisme. Et ça, c'est important même pour des pays développés comme l'Australie, comme les États-Unis. Le tourisme issu des récifs coralliens est très important pour ces différents pays. Et puis, c'est important parce que les récifs protègent les côtes de l'érosion. Et on l'a vu, quand il y a des tsunamis, les zones protégées par les récifs ne sont pratiquement pas touchées. Donc voilà, les récifs sont importants à la fois pour la biologie, pour la biodiversité, mais également très importants pour nous.
Alors problème, les scientifiques de l'expédition Tara ont pour l'instant constaté un blanchissement massif des coraux et c'est sur l'ensemble du Pacifique. Alors évidemment, je disais 15 000 échantillons, tout ça est en train d'être étudié, mais aujourd'hui, Romain Troublet, le constat est quand même inquiétant.
On a déjà, effectivement, on a encore beaucoup de travail pour déterminer précisément ce qui s'est passé, mais on a observé beaucoup de blanchissement et je pense que je pourrais dire que quasiment parmi tous les îles qu'on a parcourues depuis un an, une vingtaine de pays différents, quasiment tous avaient une partie de son récif blanchi.
Sauf Wallis et Futuna, je crois.
Wallis et Futuna étaient en bon état, mais il y avait des endroits qui étaient en moins bon état et d'endroits qui étaient un peu moins touchés. C'est assez aléatoire, en fait, comment. La répartition de ce blanchissement aujourd'hui.
Alors Denis Allemand, quand on parle de blanchissement, faut expliquer peut-être rapidement ce que c'est, c'est-à-dire que la hausse des températures de l'eau ne va pas bien au corail, pour simplifier.
Oui, tout à fait. En fait, les coraux sont les organismes les plus sensibles au réchauffement. Le réchauffement global va affecter tous les organismes sur Terre et dans les eaux. Mais les coraux sont particulièrement sensibles parce que une faible augmentation de température suffit à provoquer un phénomène visible à l'œil nu, qui est ce qu'on appelle le blanchissement. Alors, qu'est-ce que c'est le blanchissement? C'est tout simplement le divorce entre le corail, l'animal corail, mais ce corail héberge à l'intérieur de ses cellules, à l'intérieur de ses tissus, des petites algues photosynthétiques qui font de la photosynthèse, qu'on appelle des zooxanthelles. Donc le fonctionnement en fait des récifs est basé sur une symbiose entre le corail et ses algues. Et quand le corail perd ses algues, quand la température augmente, il y a divorce entre les deux, et le corail, en perdant ses algues, perd une grande partie de sa nourriture, et ça affaiblit le corail, qui continue à vivre pendant quelques temps, mais si le corail n'arrive pas à récupérer ses algues au bout d'une dizaine de jours, le corail meurt, et on le constate effectivement, comme l'a dit Romain Troublet, on le constate, dans certaines zones, on a d'importants blanchissements, et ces blanchissements peuvent conduire à des mortalités importantes des récifs.
Mais jusqu'à 70% dans le nord du Pacifique, par exemple, c'est énorme.
Tout à fait, tout à fait. Dans la Grande Barrière de Corail d'Australie, l'année dernière, la zone nord-ouest de la Grande Barrière avait blanchi à 99%. C'est énorme.
Alors, et c'est là justement où est Tara en ce moment. Donc, on ira tout à l'heure sur la Grande Barrière de Corail en Australie. Éric Douville, au sein du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, vous étudiez, vous, des carottes de corail. Alors, je savais qu'on pouvait comprendre notre environnement et son évolution grâce aux carottes de glace, comme on le fait pour le climat. Mais vous, c'est avec les carottes de corail. Alors, expliquez-nous comment ça marche.
Oui, alors, quelques mots sur notamment l'étape de blanchiment qu'il y a eu l'année dernière. Ça a été notamment accéléré et favorisé par tout le phénomène El Niño, qui a été très marqué l'année dernière, un phénomène El Niño qui n'avait pas été vu depuis des décennies aussi puissant et qui a réchauffé fortement ces masses d'eau ouest et qui a expliqué le blanchissement massif de ces barrières coralliennes. Après, donc, l'objectif que nous, on développe en collaboration avec le Centre scientifique de Monaco et puis au sein de notre laboratoire sur le plateau de Saclay, c'est donc d'étudier la géochimie des carottes corallières pour analyser les évolutions passées sur les 100 dernières années, les évolutions de la température, mais aussi du pH de l'océan.
Alors, quand vous dites les 100 dernières années, c'est-à-dire qu'une carotte d'un mètre, par exemple, c'est 100 ans, parce que je crois un centimètre, c'est un an, c'est ça?
Alors, c'est à peu près ça. Cela dépend des espèces.
C'est les journalistes qui simplifient toujours.
Exactement. Donc ici, on travaille sur une espèce qui s'appelle Porites. Cette espèce-là a à peu près un taux de croissance linéaire de l'ordre de 1 centimètre par an. Et en fait, pour caractériser précisément ce taux de croissance, on fait un premier exercice. Une fois qu'on a collecté ces carottes de corail, on fait de la tomographie, du scanner médical, pour étudier les bandes annuelles de densité. Et ces bandes annuelles nous permettent exactement d'avoir le modèle de croissance de ces coraux, de ces colonies.
Mais du coup, est-ce que la situation évoquée par Romain Troublet et Denis Allemand, qui est assez catastrophique, là, sur la moitié de l'expédition de Tara, on voit quand même qu'il y a beaucoup de coraux qui ont souffert ces dernières années. Est-ce que vous avez constaté un phénomène similaire durant les 100 dernières années?
Alors, on travaille sur différents chantiers, évidemment. Là, aujourd'hui, on est à mi-étape de Tara Pacifique. Donc, on a prélevé de l'ordre de 10, 12 carottes sur différentes îles. On a commencé simplement à faire les analyses. Donc, pour l'instant, on est vraiment à la première étape d'acquisition des données. Les analyses qu'on a réalisées en tomographie montrent, sur les carottes brutes, puisque après on va les travailler, montrent une évolution de la densité. Pour l'instant, il est trop tôt pour dire si c'est encore associé à, par exemple, un phénomène d'acidification des océans, donc lié au phénomène de rejet de CO2 massif qui fait chuter le pH de l'océan et pourrait modifier les paramètres de croissance du corail, ou le réchauffement climatique, ou d'autres paramètres qui pourraient influer sur ces phénomènes de densité.
Les recherches sont en cours.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
I. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Il y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère. dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie de Guili Guili Bugatti, des oh la la la, des soirées de gala, Riviera. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous faisons le point à mi-parcours de la mission Tara Pacifique qui parcourt le Pacifique pendant 2 ans pour étudier l'état des récifs coralliens. Actuellement, l'équipage de Tara est sur la grande barrière de corail à l'est de l'Australie dans le parc marin des Capricornia Cays, juste à côté de l'île Heron, 800 mètres de long, 300 mètres de large, qui abrite l'un des centres de recherche sur le corail les plus pointus de la planète. Reportage sur place de Vincent Hidel.
6 heures du matin, ce 30 août, devant l'étrave de Tara, un petit confetti vert est posé sur l'horizon. Il s'appelle Heron Island. Jonathan Lancelot, chef des opérations hyperbares de Tara Pacific.
Là, on est en vue de Heron Island. Ça va être le premier site de prélèvement pour l'année 2 de Tara Pacific. Ouais, je pense que ça va être une belle journée, on va mettre à l'eau, on va ressortir le matériel de plongée. Et le but de la journée, ça va être de trouver le site de prélèvement pour le sampling de demain. On va également essayer...
Le sampling, donc on rappelle, c'est l'échantillonnage.
L'échantillonnage de coraux et de poissons, ouais. Aujourd'hui, le but est aussi de trouver une grosse porythèse afin de réaliser la carotte de corail dans la journée pour dégrossir le travail de demain.
Et là, c'est le début de la deuxième année d'expédition de Tara Pacific.
C'est ça, puis on commence par un endroit qui est assez représentatif parce que c'est la Grande Barrière de Corail. C'est un endroit quand même clé de l'expédition, je pense.
Alors pour un plongeur comme vous, c'est des rêves qu'on empile un peu là.
Ah, c'est ça, là, de venir ici, c'est quand même. Ça fait pas rien, ouais.
Donc là, pour vous, bien sûr, chef des opérations hyperbares, c'est plongé aujourd'hui, hein, ça commence là.
Baleine là.
Baleine ?
Regarde, qui sort la nageoire là.
Ah, en dessous, ça doit être une vie, une biodiversité incroyable. Hein.
Eh ben, j'ai hâte d'aller voir ça. Là, on est en train d'observer une baleine à bosse avec son baleineau. Un petit qui doit être né il y a quelques jours, je pense. Hein, parce qu'on est en pleine saison de mise bas pour les baleines à bosse. Elles viennent dans les eaux chaudes. Enfin, chaudes, oui. C'est plus chaud que là où elles sont d'habitude, mais elles viennent par ici pour mettre bas.
Alors là, c'est un balai. Hein.
Ah là, c'est fabuleux d'assister à ça, ouais. Il y a le petit qui joue et la mère qui est à côté qui l'assiste.
Nicolas Delabrosse, second capitaine sur Tara. Donc ça y est, on est posé à Heron Island.
Ça y est, on y est. On va pouvoir couper les moteurs et puis se préparer pour les premières plongées. Donc mettre... Le deuxième semi-rigide à l'eau, préparer le matos de plongée. Et puis je crois que les scientifiques sont un peu impatients là, de pouvoir se mettre à l'eau et commencer la deuxième année.
Jonathan, plongée à combien de mètres ce matin?
Normalement c'est une plongée biodiversité, donc il y a un binôme qui sera entre 0 et 5 mètres et l'autre binôme qui sera entre 5 et 10 mètres. Le but étant de prélever un maximum de coraux différents afin de se rendre compte de la biodiversité présente sur site.
Les biologistes plongeurs de Tara Pacific sont partis en annexe pour explorer les spots retenus et ramener les premiers échantillons de cette deuxième année d'expédition. Nous débarquons enfin sur Heron Island pour visiter le centre de recherche sur le corail. Dès les premiers pas, à l'ombre des pisanias, ces arbres de la même famille que les bougainvilliers, le charme opère. Thank you. ici au centre de recherche de Heron Island et j'ai la chance de rencontrer un des opérateurs d'expérience en cours sur le corail justement face à la montée des températures.
Cette expérience particulière est basée sur l'accord de Paris de 2015, la COP21.
De Schwabix, assistant de recherche au centre de recherche sur le corail à Heron Island.
Nous essayons de recréer les scénarios sur lesquels les États se sont mis d'accord pour essayer de combattre les impacts potentiels du changement climatique. Au cours des dernières années, nous avons vu des impacts dévastateurs sur les récifs coralliens, en particulier sur la grande barrière de corail, ici en Australie. Nous essayons de voir si l'on peut prédire ce qui va arriver et quelles seraient les meilleures réponses pour atténuer les impacts potentiels. Alors, pour ce type d'expérience, nous avons mis en place 4 groupes de tests. Il y a un groupe sur lequel nous ne faisons aucun changement, que ce soit en termes de CO2 ou de température. Il y a aussi un groupe avec à la fois une augmentation de l'eau de 1 degré Celsius et une augmentation du CO2. Et ensuite, ce groupe a été divisé en 2 autres sous-groupes, un groupe avec seulement une augmentation de la température et l'autre avec seulement une augmentation du CO2. Nous pouvons ainsi décomposer plusieurs impacts potentiels de température et d'alcalinité et aussi voir comment ils réagissent ensemble.
Les résultats des expériences menées ici par l'Université de Queensland sont très attendus. Dans chacun des bacs que nous montre Josh, les coraux sont plongés dans des eaux avec différents degrés de température ou de CO2. Quand on sait que 50% de la grande barrière de corail serait aujourd'hui morte, ce travail est observé depuis le monde entier. Nous sortons du centre, et à deux pas de là, des centaines de bungalows ont poussé dans la forêt. Un resort a été construit ici bien avant qu'Heron Island soit inclus dans le parc national des récifs du tropique du Capricorne.
Le nombre maximum de personnes est de 290.
Gemma Curry, réceptionniste, Heron Island Resort.
Quelles sont les principales activités que les gens peuvent faire lorsqu'ils arrivent ici ?
L'activité la plus populaire est de sauter directement dans l'eau avec un masque et un tuba, directement de la plage. Le premier prix est de 333$ la nuit. Nous avons un groupe électrogène pour produire notre propre électricité. C'est un diesel, je crois. C'est ainsi que nous générons toute notre énergie.
Donc, vous avez besoin de carburant ?
Oui.
Vous le faites fonctionner beaucoup chaque jour ? Vous avez besoin de beaucoup d'électricité ?
Oui, pour faire fonctionner un centre de vacances, surtout à pleine capacité. Nous avons également 80 employés sur l'île, qui vivent ici, à temps plein.
Tout le paradoxe de l'Australie semble réuni ici, sur cette île d'à peine 12 hectares. D'un côté, un centre de recherche qui étudie l'impact du changement climatique sur le corail. Et juste à côté, un resort qui produit son énergie uniquement grâce à un générateur électrique fonctionnant au fioul. Ce paradoxe, nous pouvons le généraliser à beaucoup d'autres endroits sur la planète. Mais il est temps pour nous de reprendre la mer. Tara et les Taranautes doivent continuer leur mission d'investigation sur le corail.
Un reportage de Vincent Hilaire. Romain Troublé, ce reportage montre bien l'état d'esprit de l'expédition de Tara.
Ah bien sûr, c'est une ruche. Quand on voit les photos de ce bateau là où il est en ce moment, on est en train de se dire que... Et donc c'est quand même sympa la vie qui mène. Mais il y a un rythme de ouf à bord de ce bateau. On a fait des quarts jour et nuit. On navigue le jour, la nuit. On plonge, on fait, quand on est sur des récifs, on plonge 2 fois par jour. C'est exténuant, c'est un boulot de fourmi aussi, c'est répétitif, on fait toujours la même chose. Et donc c'est vraiment un travail de tous les jours. Mais c'est aussi très riche de rencontres, comme on a vu là, d'endroits incroyables. Après la barrière de corail, on va dans un territoire français que personne ne connaît, qui est Chesterfield, qui est un plateau, un récif entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Et on va être curieux de savoir ce qu'on va y trouver là-bas.
Denis Allemand, vous parliez tout à l'heure de l'état de la grande barrière de corail australienne. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter aujourd'hui ?
Il y a des raisons de s'inquiéter si on ne fait rien dans les années à venir. Je pense qu'il faut toujours quand même rester optimiste. Hein, et si des actions sont menées, mais il faut mener ces actions rapidement, si on suit les recommandations de la COP21, il est fort à parier qu'on arrivera à réverser un petit peu le mécanisme et que les récifs pourront repartir. Mais il faut quand même agir très rapidement.
Alors, agir très rapidement, ça veut dire quoi? Parce que, bon, aujourd'hui, on sait que les émissions de dioxyde de carbone, qui sont en partie responsables du réchauffement climatique, stagnent. Mais on a toujours besoin de plus en plus d'énergie, on va être de plus en plus nombreux. Donc, vous dites qu'il faut agir rapidement. Du point de vue du défenseur du corail, ça veut dire quoi?
Alors, agir plus rapidement, bon, bien entendu, c'est suivre les recommandations de la COP, mais c'est pour le corail, différentes choses. Alors, ce que va faire ce que vont faire les scientifiques de Tara, c'est en prélevant des échantillons dans tout le Pacifique, dans différentes conditions, dans différentes conditions d'état de santé, blanchies ou pas blanchies, dans différentes conditions de température, d'acidité, on va essayer d'établir une cartographie de la biologie du corail. C'est la première fois qu'une étude à cette échelle-là est réalisée. Ça, c'est vraiment à avoir en tête. Et cette cartographie, on ne va pas simplement l'établir pour le corail, mais on va l'établir pour tous les organismes qui habitent le corail, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des algues, des petites algues photosynthétiques, des zooxanthelles qui vivent et dont la vie du corail dépend. Mais en fait, on sait maintenant, depuis quelques années, on a mis à l'évidence que dans ce corail, il y avait non seulement des algues, mais il y avait des bactéries, des virus, tout un tas d'organismes qui composent ce corail, que l'on appelle d'ailleurs maintenant holobionte. Holobionte, ça veut dire que ce qu'on appelle corail, c'est en fait un ensemble, un HLM à organismes. Et ces différentes composantes du corail sont sûrement très importantes pour la survie du corail. Donc en analysant cette composante dans différents endroits, on va essayer d'avoir cette vision de la stratégie qu'adopte le corail pour survivre, pour s'adapter, et peut-être dans le futur, mettre en place des mécanismes pour rendre les coraux plus résistants en sélectionnant une colonie qui va résister à des températures plus élevées, à des pH plus bas, ou des bactéries présentes à l'intérieur du corail qui vont lui permettre de mieux résister à ces changements climatiques. Donc ça, c'est réellement une des conséquences de l'expédition Tara, c'est de mieux comprendre l'écosystème corallien pour mieux comprendre comment il pourra s'adapter, comment il est en train de s'adapter, comment il pourra s'adapter dans le futur.
Il n'y a pas que les changements climatiques, il y a aussi les pollutions qui impactent directement le corail. C'est-à-dire que le corail est malheureusement toujours un peu près des côtes, enfin dans certaines régions plus que d'autres.
Tout à fait. Le corail est malheureusement effectivement près des côtes. Alors c'est pour ça qu'il est très important pour la vie humaine. Mais près des côtes, il est à l'interface entre la Terre et les océans. Donc il reçoit tous les inputs, tous les déchets humains. Et votre reportage à Iron Island le montre bien. On est directement en face à une activité humaine. En Australie, il y a beaucoup de rejets de matières organiques dépendant de l'agriculture. Il y a, dans certaines zones, vous avez des aéroports qui sont construits sur les récifs. Donc les récifs sont également menacés par des activités humaines locales. Mais ces activités humaines locales, pour être gérées, c'est malheureusement les activités globales, les stress globaux, dépendant des changements climatiques, qui sont les plus dangereux. Et là encore, Tara va pouvoir, en allant dans des zones très éloignées d'activités humaines, va pouvoir différencier l'impact direct humain de l'impact des changements globaux.
Alors Éric Douville, qu'est-ce que vous espérez trouver dans les carottes que Tara prélève et vous rapporte?
Donc on va obtenir des informations à travers l'analyse par spectrométrie de masse, donc des éléments traces et de certains isotopes comme l'isotope du bore.
Oula, alors là vous êtes hyper technique en deux secondes. Là.
C'est tout de suite très précis, mais c'est ce qui va nous donner des informations clés et aujourd'hui chiffrées et quantifiées de l'évolution de la température et du pH.
Alors vous allez scruter en fait les carottes
bande par bande à l'échelle annuelle.
C'est un peu comme un arbre avec les
exactement, c'est une archive naturelle de l'histoire de l'océan. L'avantage qu'on a d'utiliser nos outils géochimiques, c'est aussi qu'on ne retrace pas uniquement les propriétés de l'océan, mais on va diagnostiquer un état de santé, c'est-à-dire la capacité de calcifier des coraux. Aujourd'hui, en fait, on étudie aussi à travers nos traceurs géochimiques réalisés au sein de notre laboratoire, on étudie la capacité, ce qu'on appelle de calcifier, c'est l'état de saturation du fluide de calcification. Alors, c'est tout de suite très technique, mais grosso modo, on essaye de faire le lien entre les paramètres de l'océan, la géochimie enregistrée dans les coraux et la physiologie, c'est-à-dire les paramètres de croissance du corail. Et tout ça est réalisé au sein du consortium Tara et notamment avec Monaco pour la physiologie, notre laboratoire, donc commissaire à l'énergie atomique au sein du LSCE, pour développer la géochimie de pointe.
Et ça permet de lire l'histoire des océans. C'est quand même assez fascinant. Romain Troublé, la prochaine étape?
Pour prédire l'histoire, il faut connaître le passé. Et donc, la première étape, c'est de voir comment ça a évolué depuis jusqu'à maintenant, pour pouvoir avoir une idée de ce qui peut se passer demain. ce que fait Eric tous les jours sur les carottes.
Toutes les données qu'on va acquérir seront utilisées au sein des modèles pour affiner les prédictions pour le futur.
Romain Troublet, on disait la prochaine étape.
La prochaine étape de la mission.
Oui.
Le bateau est en train d'attaquer la deuxième année. On se dirige vers le fameux triangle de corail entre Nouvelle-Calédonie, la Chine et l'Indonésie. Endroit très très riche en corail, très très divers, beaucoup de diversité. Et un endroit majeur parce que c'est là que se trouve le réacteur de la diversité du corail.
Donc on espère que le constat ne sera pas trop alarmant.
Bon, on espère, mais l'accord de Paris est avec nous. Le Tara était à Paris pour la COP21. On fait cette mission-là dans la suite de l'accord de Paris. C'est exactement ce que fait la France pour soutenir ce plaidoyer pour la planète. Et au-delà de la science qu'on fait tous les jours, passer dans ces pays et leur expliquer que finalement, changement climatique, ok, ça a un impact. Mais ce que vous faites tous les jours dans votre territoire a un impact sur votre barrière de corail. Et souvent, ils ne le savent pas. Donc c'était vraiment aussi un travail de pédagogie finalement, de partage de ces connaissances. Et le bateau s'arrête jamais, et encore un an d'expédition avant d'entrer en France.
Et nous continuons à vous suivre, à suivre la Goélette Tara comme nous le faisons depuis le début, grâce aux reporters embarqués à bord. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde, et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.